Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Énervé la Suite France Inter. Plus, c'est une semaine de dossiers 100% France Inter pour retrouver celles et ceux qui ont marqué l'antenne, les grands événements et les sujets qui font toujours l'actualité. Cette semaine, en pleine rentrée des classes, c'est Françoise Zolto à l'antenne. Retour sur deux ans d'émission culte 1976-1978. Françoise Zolto répondait aux parents dans l'émission Le Temps de Vivre de Jacques Pradel. Alors parmi les 345 émissions, on a voulu ce soir, faire le point sur des sujets qui animent toujours l'intérêt, l'inquiétude parfois des parents. La sexualité des enfants, ce fameux complexe d'Œdipe, la masturbation et le genre dont on ne cesse de débattre. Alors juste avant de commencer, je voudrais revenir sur cette phrase de Zolto qui dit la vérité sur ce malaise de la société. Il y a des familles où tout ce qui touche à la sexualité est considéré comme sale ou défendu. On ne sait plus alors si on est un enfant de l'amour ou un enfant de la faute. La psychanalyste fait entendre les mots et c'est pour ça qu'elle passe à la radio.
Françoise Zolto, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, aujourd'hui, je crois qu'il faut aborder un grand thème comme ça. De ces thèmes, vous savez, dont tout le monde a entendu parler et dont on ne sait pas toujours exactement de quoi il s'agit, c'est le fameux complexe d'Œdipe. Alors ça, je crois que tout le monde peut être amené, quand on a un enfant à la maison, à se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que mon fils, ma fille fait un complexe d'Œdipe? Je généralise volontairement les choses. Alors, je voudrais qu'on en parle à travers deux lettres que vous avez reçues. L'une qui vient d'Espagne, d'une auditrice qui vous écoute assez souvent de Madrid, qui, elle, a une situation assez particulière puisque elle s'est séparée de son mari depuis 6 ans et elle a un garçon, un enfant, qui a justement 6 ans. Il est né un mois après cette séparation. Et elle vous dit, j'ai entendu parler du complexe d'Œdipe et on me dit que l'enfant, pour le surmonter, ce complexe, a besoin de la présence du père. Elle dit, or mon fils, lui, ne l'a jamais vu, ce père. Alors voilà la question que je vous pose, comment aider mon enfant à résoudre son problème? Moi j'ajouterais éventuel, parce qu'il n'est pas fatal que cet enfant ait un problème.
Elle ne dit pas du tout comment se comporte ce garçon, et s'il est possessif et jaloux de sa mère, et si cette femme ne voit jamais
d'autres personnes, elle précise justement qu'elle habite chez ses parents, qu'elle a 28 ans, et qu'elle ne sort jamais, elle ne sort pas avec un homme, dit-elle, dans lequel mon fils pourrait retrouver une relation père-fils, elle n'a pas d'amant, enfin, elle vous explique ça en détail.
Oui.
Alors, je prends l'autre lettre avant de vous laisser répondre. L'autre lettre qui vient de France, cette fois, et qui vient d'une auditrice qui a 2 enfants, une fillette de 4 ans et un petit garçon d'un an. Or, depuis l'arrivée dans la famille du petit garçon d'un an, la petite fille, elle, est en opposition constante, plus particulièrement avec son père. Avec la mère, elle se montre assez exigeante, très tyrannique. Elle accapare beaucoup le petit frère, elle le couve. Elle va à l'école, dit-elle, avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'assiduité. Et on a l'impression un peu qu'à la maison, elle se défoule. Alors justement, Œdipe, la mère dit, il me semble que pour une fillette, comme on me l'a dit, la situation œdipienne devrait provoquer l'attachement au père et la jalousie envers la mère. Et elle vous dit, est-ce que ma fille alors ne rentrerait pas dans les normes? Vous avez beaucoup de questions.
Il semble que cette petite fille est en plein complexe d'Œdipe, justement. C'est-à-dire qu'elle est très jalouse que le père ait donné à la mère un enfant et pas à elle. Et elle se l'accapare, comme dit la mère tout le temps, pour faire semblant que c'est elle la maman du bébé. Elle joue dans son cœur sans le dire. Elle joue à prendre ce bébé parce que c'est pas juste qu'aimant un père... ce père ne lui est pas donné à elle la joie d'être mère.
Alors on peut la rassurer, sa fille est dans les normes.
Ah oui, sûrement.
Alors pour l'autre lettre, pour la lettre de cette éditrice espagnole, qu'est-ce qu'on peut répondre?
Je pense qu'en effet, cette dame elle-même, en vivant chez ses parents, semble avoir, arrêté un peu son développement à la naissance de l'enfant. Elle s'est consacrée à élever cet enfant chez ses propres parents, dit-elle. Il semble donc qu'il y ait un homme et que cet enfant peut se développer en identification à un homme, qui est ce grand-père, puisqu'il est là. Mais peut-être cet enfant est-il assez possessif de sa mère. Maintenant, peut-être aussi considère-t-il sa mère comme une grande sœur, puisqu'il vit chez les parents de madame. Moi, je ne peux rien dire là-dessus. D'ailleurs, elle ne dit pas si son fils a des problèmes, mais il doit porter le nom de son père. D'après ce qu'elle dit, elle a été mariée avec lui.
Oui.
Il sait qu'il a un père, mais c'est son grand-père qui a pris le relais pour lui. La situation est complexe pour ce garçon. De toute façon, son identité de garçon, il l'a certainement, Quant à elle, elle a une identité de fille, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait encore actuellement une identité et une liberté de femme. Maintenant, le contexte espagnol est très différent du contexte français. Chaque cas est un cas particulier. Et peut-être que c'est le jour où cette femme se permettra de vivre sa vie de femme, que cet enfant se montrera jaloux de l'homme qui aura plus de droits sur elle que n'en a son père à elle et son fils à elle. Je ne sais pas vous dire, mais en tout cas, le complexe d'Édipe, c'est-à-dire cette relation de l'enfant qui s'identifie à l'adulte en voyant dans cet adulte l'image achevée de lui-même et le modèle des désirs qu'il faut avoir pour de devenir adulte, cet enfant-là, certainement dans ce monsieur grand-père, mais il est un petit peu flou quant à quelle est la femme qui est la sienne au lit. Probablement, c'est la grand-mère maternelle. Et pour l'instant, il doit sans doute marquer le pas et rester enfant, un peu ignorant des réalités de la sexualité sur le plan de la conscience. Ça n'empêche pas que ces rêves sont probablement des rêves tout à fait normaux.
Alors pour parler en termes beaucoup plus généraux, pour ceux qui vous écoutent en ce moment, je vous pose des questions de néophyte. Hein.
Oui.
Ce passage donc de l'enfant, il est à peu près général, il se produit dans le développement de tout enfant.
De tout enfant.
Alors comment est-ce que les parents doivent réagir lorsque ce complexe se manifeste ?
Selon leur propre désir à eux.
Normal,
savoir que c'est normal et leur dire quand tu seras grand, tu feras ce que tu voudras. Pour l'instant, tu n'es pas capable d'avoir ni femme si c'est un garçon, ni homme si c'est une fille. Pour le désir d'adulte, tu prends modèle sur des adultes, tu voudrais faire comme eux et cependant tu ne peux pas être, si c'est un garçon, le mari de ta mère, si c'est une fille, la femme de ton père, parce que c'est comme ça dans la vie.
Donc encore une fois, en tout cas, ne pas hésiter à dialoguer avec les enfants.
Bien sûr.
Alors ça, c'est.
Et puis lui dire que lorsque son père était petit, il a souffert des mêmes choses que lui. Lorsque sa mère était petite, elle a souffert des mêmes interdits que la petite fille.
Et ça se retrouve donc dans toutes les formes de société, disons.
Toutes les formes de société, différents suivant le contexte de la société, mais toujours.
Françoise Dolto, j'ai encore d'autres questions à vous poser, ou plutôt, enfin d'autres questions à vous poser à travers d'autres lettres, mais vous voulez revenir encore quelques secondes, je crois, sur ce qu'on vient de dire.
Mais oui, parce que ce complexe d'Édipe, maintenant que c'est rentré dans le domaine public, les gens se posent des tas de questions, alors que ça a toujours existé. C'est pas parce que la psychanalyse a montré comment il construit les gens, qui n'a pas toujours existé et qu'il existera toujours, parce que ça fait partie du développement de l'être humain. Mais surtout, les gens ne se rendent pas compte que ça se manifeste de façon parfois tout à fait différente de ce à quoi on s'attend d'après ce qu'on a lu dans les livres. Vois par exemple, dans une famille où il y avait 3 enfants, 2 garçons étaient les aînés, il se trouve que 2 ou 3 fois qui leur ont semblé être tous les jours, la mère sortait avec le père. Et les fils sont venus dire « Mais enfin, pourquoi est-ce que tu sors toujours avec celui-là et que tu ne sors pas avec nous ?» Nous, c'était le commando des garçons. Alors, la mère, un peu déroutée, dit « Mais enfin, à la fin, c'est mon mari, j'ai bien le droit de sortir avec lui. » Et un des enfants qui dit « Ben, nous aussi, on veut être ton mari. » Alors, la maman ne savait pas quoi répondre. En elle-même, elle avait le schéma du complexe d'Édipe, évidemment. Et l'autre garçon qui lui dit « Ben, tu comprends, elle, c'est son mari pour faire des enfants, et puis nous, on serait son mari comme ça. » Et puis voilà, ils se sont tus un peu maris de ce que la maman eut un mari. Et puis c'était comme ça. Voilà pour des garçons, par exemple. Une autre façon de manifester chez le garçon qui aime son père, qui veut s'identifier à lui, qui veut qu'il ait toujours raison, et en même temps, qui aime sa mère, et qui voudrait qu'elle ait des privautés avec lui. Alors, le père... Tu sais, peut-être qu'il ne rentrera pas ce soir. Alors, s'il ne rentre pas, je peux m'asseoir à sa place, hein, parce que comme ça, c'est bête de laisser une place vide. Et bien sûr, il faut que les mamans soient à l'affût à ce moment-là, dire, mais écoute, cette place, elle n'est jamais vide, parce que qu'il soit là ou pas, c'est la place de ton père, et il est toujours là, même quand il n'est pas là, ton père. Bien sûr, le garçon la sent passer, mais c'est très mauvais quand, sous prétexte que le père n'est pas là, la mère laisse prendre la place du père au fils, parce qu'il se croit alors, dans son imaginaire, le droit, par rapport à sa mère, d'être le papa. Encore pire, quand c'est dans le lit, parce que la mère aime avoir chaud, pourquoi pas, puisque mon mari n'est pas là, que mon fils vienne dedans. Ceci, c'est très mauvais pour les enfants. voyez, c'est comme ça que le complexe d'Œdipe se manifeste quotidiennement dans la vie de tous les jours, et que la maman fasse attention. Justement, elle ne laisse pas prendre des prérogatives au fils qui sont celles du mari, parce que ces petites prérogatives qu'ils prennent, pour eux, dans leur vie imaginaire, c'est comme s'ils avaient le droit de désirer tout autant que le père, la mère. Et ceci les gêne dans leur développement. Pour une fille, c'est la même chose. Je me rappelle une petite fille, elle avait à ce moment-là 3 ans, et qui était en pleine période amoureuse de son père, et qui vient dire en se précipitant à la mère, « Oh, papa, je le déteste !»« Ah oui, dit la mère, et pourquoi tu le détestes ?» Et après un moment de silence, « Parce qu'il est trop gentil !»
Comme je l'imagine, le tube de Véronique Sanson. Vous écoutez le Énervé, la suite France Inter, plus de Françoise Dolto ce soir.
Je crois qu'il faut répondre à toutes ces lettres qui arrivent. C'est un thème qui n'a pas encore été abordé, ou qui a été abordé, mais un petit peu comme cela, au cours d'autres séquences. C'est le thème de la masturbation des enfants. Je crois que dans ce courrier que vous avez lu, les parents s'interrogent sur ce problème qui les inquiète quelquefois et dont ils n'osent souvent pas parler.
Oui, c'est assez curieux d'ailleurs dans ces lettres. Ou bien les parents s'en inquiètent et même s'en surinquiètent et à pas de loup vont guetter les enfants pour savoir s'ils se masturbent. Et d'autres, au contraire, les parents dénient complètement, c'est pas possible. Un des parents le dit et l'autre dit ce n'est pas vrai. Et bon, il faut savoir que la masturbation infantile est un moyen qu'a l'enfant pour se distraire, non pas par le fait même de la masturbation, mais par le fait que la masturbation s'accompagne d'imagination, de rencontres jouissives, de communication avec des gens qui ne sont pas là. Le fait de se masturber pour l'enfant est normal
quand il s'endort le soir, c'est se refermer sur lui-même et refaire une sécurité existentielle, retrouver une sécurité existentielle. Lorsqu'un enfant se masturbe visiblement par des adultes qui ne le guettent pas pour savoir s'il le fait, s'il se masturbe en classe, par exemple, c'est un enfant qui pose la question de la sexualité qui ne lui a pas été expliquée par un adulte de son sexe. Car il est très important que le rôle du plaisir auto-érotique soit expliqué à une fille par une femme qui lui dit « c'est en effet un lieu de notre corps qui est très sensible et très agréable ». Et puis, je suis sûre que ce qui est agréable, c'est toutes les histoires que tu te racontes pendant que tu le fais. Ce n'est pas mal du tout, mais tu verras comme ça sera beaucoup plus agréable quand tu auras un mari. C'est cela le problème, c'est que l'enfant tout petit doit déjà être soutenu à penser que la rencontre avec l'autre dans la réalité est ce qu'il y a de plus agréable pour l'adulte et que l'adulte ne voudrait pas qu'il s'arrache la peau, qu'il s'abîme les muqueuses. Pourquoi pas? Il ne le voudrait pas non plus qu'il se gratte le nez ou qu'il se morde les lèvres. C'est le même problème, si vous voulez, pour un enfant qui a un auto-érotisme un peu dangereux pour la santé de la région qu'il excite. Mais la plupart de ces lettres, à mon avis, sont des lettres de parents gênés de leur propre sexualité, ou bien des lettres qui traduisent que des enfants s'ennuient. Vraiment, il y a là ces deux garçons qui se masturbent jusqu'à l'hystérie. Eh bien, ce sont des garçons, premièrement, qui n'ont pas d'explication sur le sens qu'a le désir pour les parents, et que, en effet, ils sont invités, en se développant, à avoir des rencontres exquises avec un autre, une autre, et surtout des explications sur cette sensibilité particulière qui est la sensibilité de la région génitale. Cet autre enfant qui se masturbe en classe et que tous les professeurs en parlent à la mère au lieu simplement d'en parler aux garçons. Écoute, ne fais pas ça devant tout le monde. Nous ne faisons pas ça devant tout le monde. Et cette mère, je crois, avait conduit cet enfant à un médecin une première fois qui l'avait un peu aidé en parlant.
Il lui avait donné des calmants aussi.
Oui, mais c'est pas ça la question. La question, c'est, comme elle le voit très bien, c'est que le père dénie complètement cette masturbation de son fils, ne veut pas voir que son fils grandit et qu'il a besoin d'avoir des éclaircissements sur la vie génitale. C'est un enfant qui continue éperdument une masturbation de 5-6 ans. Il faut savoir que la masturbation est normale et saine et naturelle pour un enfant de 3 à 7 ans. Il arrive que des enfants continuent la masturbation, c'est quand ils sont restés trop bébés, parce qu'ils n'ont pas d'amis, parce qu'ils ne sortent pas de la famille, parce qu'ils ne vivent pas d'une vie sportive, d'une vie créatrice ailleurs, qu'on ne rigole pas à la maison, qu'on s'embête, qu'ils ne savent pas s'amuser le soir et qu'on les oblige à fermer la lumière avant qu'ils n'aient sommeil. Et ce sont des enfants dans un désert de relations agréables. Voilà ce que c'est. Mais la plupart de ces lettres auxquelles je fais allusion aujourd'hui sont des lettres de parents qui devraient aller consulter, eux, avant de consulter, avant d'amener leur enfant à consulter, consulter eux-mêmes. Et cette femme dont le mari ne peut pas parler de la sexualité à son fils, c'est rigoureusement un psychothérapeute masculin que ce garçon doit voir.
Oui, elle dit, lorsque j'en ai parlé à mon mari, il m'a répondu que ça n'était pas possible, que l'enfant avait seulement besoin d'être lavé.
Oui.
Et de toute façon, je peux vous dire, je continue 10 secondes, je peux vous dire qu'il ne saurait pas lui parler de ça, entre guillemets, s'il le fallait, qu'il ne le voudrait pas.
Enfin, si ce père pense que ce garçon a besoin d'être lavé, pourquoi lui-même ne lui explique-t-il pas? Parce que c'est vrai qu'il y a des enfants qui ne savent pas se laver le sexe. Mais ce n'est pas à la mère de le faire de toute façon. C'est à un médecin de l'expliquer au garçon, c'est au père de l'expliquer et de le montrer, et puis c'est peut-être à la mère de plonger ces garçons dans le bain tous les soirs. Parce que c'est certain que des enfants qui font pipi au lit ont toujours la verge irritée. Peut-être même ont-ils un phimosis. En tout cas, ces enfants doivent voir un médecin psychothérapeute.
Françoise Dolto, il y a un instant, et je vous ai entendu en parler avec intérêt, parce que c'est les lettres qu'on reçoit concernent des enfants, garçons et filles, d'âges très différents les uns des autres. Donc j'ai retenu que c'est entre 3 ans et 5 ans à peu près, ce que vous disiez il y a quelques secondes.
Oui.
C'est à peu près, c'est une étape normale.
Normale et saine, et ça serait inquiétant si tu ne masturbais pas.
Bien. Alors par contre, il y a beaucoup d'autres lettres qui vous posent aussi des questions sur ce problème de la masturbation, mais qui concernent des enfants beaucoup plus jeunes. Par exemple, j'ai une lettre de Brest sous les yeux, c'est une petite fille qui a 8 mois, et alors la mère vous dit, voilà, elle a par moments un comportement curieux, depuis l'âge de 3 mois environ, elle prend dans sa main une peluche ou quelque chose d'autre, elle la serre très fort contre sa figure, elle respire très vite en pliant, en étendant les jambes de façon rythmée, s'agit-il de masturbation infantile, vous dit-elle, et elle vous demande surtout s'il faut donc la laisser faire.
Mais lorsqu'une mère voit que son enfant s'excite de cette sorte, mais c'est vraiment parce que cet enfant s'ennuie. D'ailleurs, vous savez que nous avions parlé du suçage de pouce à 3 mois. Eh bien ça, c'est un auto-érotisme qui se passe à la vulve et au clitoris pour cette petite fille parce qu'elle n'a pas trouvé le suçage de pouce. Mais le suçage de pouce est une masturbation de la zone érogène orale et cette masturbation qu'elle décrit avec orgasme, car les bébés et les enfants ont des orgasmes, ce que les adultes ne savent pas. Je crois que c'est vrai, cet enfant est sensible, cet enfant flambe déjà, a des besoins érotiques. Peut-être ne la baigne-t-elle pas assez, car la meilleure des jouissances qui calme un bébé, c'est vraiment le bain long, quotidien. Et les parents ne le savent pas assez pour ce bébé de 8 mois. Et puis, dès qu'elle la voit qui commence à s'exciter, puisqu'elle la voit, qu'elle ne la regarde pas et qu'elle ne fasse pas elle-même un fantasme sur la petite fille qui prend son pied, qui s'envoie en l'air. C'est pas ça. C'est qu'elle s'occupe de ce bébé qui est sûrement un bébé très précoce et qui a beaucoup besoin de relations ludiques, de rire, de jeux à coucou, à le voilà, et de jeux de chansons avec sa maman. Je crois que toutes ces lettres m'inquiètent parce que je me dis, mais enfin, les enfants sont l'objet de voyeurisme de leurs parents. Ils les guettent, ils les traquent pour savoir ce qu'ils font. Et puis il y a d'autres lettres au contraire où alors les parents parlent en long et en large du matin au soir de la sexualité, du plaisir, de tout ça, du sexe à leurs enfants.
Alors justement,
il y a d'autres choses à faire.
Mais justement parce que vous disiez il y a un instant, ça se passe souvent dans des familles où les gens n'osent pas parler de ça, comme disait l'auditrice entre guillemets. Bien alors justement, là j'ai une lettre tout à fait différente qui concerne.
C'est juste le contraire.
Ben c'est juste le contraire justement. Ces deux fillettes de 7 ans et de 4 ans, donc l'aînée, c'est surtout l'aînée qui inquiète ses parents. Elle a eu des troubles affectifs. Dans son enfance. Maintenant, donc, elle est très sociable, elle travaille bien, elle est bavarde, elle est coquette, elle n'a pas de complexe, elle est autoritaire, elle est aussi assez indépendante. Et ces deux fillettes sont au courant de tout, vous dit la mère. Les parents les emmènent partout. Elles entrent également, les enfants, dans la salle de bain lorsque leurs parents y sont et se lavent. Donc, ils les voient nus. Alors, voilà le problème. L'aînée se montre très séductrice avec tous les hommes. Elle se masturbe avec ses poupées en s'endormant. Et aussi, quand elle s'ennuie, elle met souvent ses poupées nues l'une sur l'autre. Alors les questions, il y a 3 questions que vous pose cette auditrice. Elle vous dit, est-ce qu'il s'agit du complexe d'Œdipe, encore une fois il y a beaucoup de lettres qui en parlent. Deuxième question, que faire? Et il y a même quelque chose d'assez, je dis ça pour le sourire, elle a peur de devoir lui donner la pilule à 12 ans, voyez-vous. Et puis la troisième question, la mère a également peur que cela ait une mauvaise influence sur la sœur qui est plus jeune.
Écoutez,
c'est un tableau étonnant quand même.
Oui, c'est un tableau étonnant et je crois que c'est une femme qui s'obsède sur la sexualité de sa fille parce que probablement ne vit-elle pas la sienne suffisamment. C'est là le problème. Maintenant, j'en profite pour dire aux mères qui parlent de donner la pilule à leur fille que jamais ça ne doit être la mère qui s'occupe de la pilule de sa fille. Je l'ai déjà dit et je le redis, si une mère pense que sa fille est déjà en danger de relations sexuelles fécondes, eh bien, ou bientôt féconde, elle doit donner à cet enfant et la conduire à une ou à un gynécologue dans lequel elle a toute confiance et qu'à partir de là, elle dise à sa fille, ce qui concerne ton corps quant à ta sexualité et à ta génitalité future, ce n'est plus l'affaire de ta mère, c'est ton affaire avec quelqu'un dont c'est le métier. C'est indispensable que les mères ne soient pas maintenant à guetter les relations sexuelles de leurs filles, à leur donner ou à pas donner la pilule. C'est quelque chose de dangereux. Je ne sais pas où nous allons. Je veux dire que cette semaine, ces lettres m'inquiètent parce que la masturbation, c'est naturel. Et voilà les parents qui en font tout un drame. La séduction du père, c'est quelque chose...
Et qui menace aussi souvent les enfants de choses
épouvantables. Et qui menace les enfants, mais oui. Et qui menace les enfants d'être guettés dans leur intimité. et violée, en fait, par ses pensées, ses regards et ses soucis. Alors que si les parents, eux, vivaient leur sexualité, tout ça rentrerait dans l'ordre. Il la vivait avec des gens de leur âge. Je pense aussi que les parents qui nous entendent, et la séduction que la petite fille veut opérer sur son père, il doit s'en défendre. Cette porte du cabinet de toilette doit être fermée. Cette petite fille flambe comme un bébé. Elle a l'air d'être une grande fille. Or, c'est à 3 ans que la fille est séductrice quand le père ne montre pas que ce n'est pas la petite fille qui l'intéresse, que ce sont les femmes adultes et pourquoi pas sa mère. Mais si c'est pas sa mère, il vaut mieux que ce soit d'autres femmes que la petite fille.
You were waiting outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you. Light years away from you. Away from you. Light years away from you.
Light Years, c'est signé The National. On retrouve tout de suite Françoise Dolto, notre nationale Françoise Dolto, au micro de Jacques Pradel dans Lorsque l'enfant paraît.
Alors c'est un couple qui vous écrit et qui dit « Nous attendons un enfant » et nous nous posons la question suivante. Alors, est-ce que le fait pour un enfant d'appeler ses parents par leur prénom et pas papa-maman peut impliquer une gêne chez lui ? Est-ce que le traditionnel papa-maman qui entraîne le rapport classique adulte-enfant est vraiment nécessaire à la constitution de la personnalité d'un enfant ? Est-ce qu'on peut peut-être aussi ménager un peu la chèvre et le chou et puis utiliser les deux formules, papa-maman, les prénoms, en laissant finalement le choix libre à l'enfant ? Et ils craignent en effet que l'emploi uniquement de papa-maman soit réservé exclusivement à des relations amicales et que celui des prénoms soit finalement pour l'enfant qu'il utilise cela pour marquer un désaccord ou son indépendance.
Alors, je peux dire qu'un autre témoignage d'une mère qui avait un enfant qu'on avait habitué à appeler les parents par leur prénom. Et un jour, il commençait la maternelle et il dit à sa mère, mais moi, j'ai pas de papa. Elle dit, comment tu n'as pas de papa? Ben non. Eh ben, et Pierre? Ben c'est mon mari. Et cette femme se disait, mais pourtant il n'est pas du tout efféminé cet enfant. Pourquoi est-ce qu'il dit que Pierre est son mari? Oui. Et voilà, n'est-ce pas? C'est que lorsque l'enfant appelle son père du nom que la mère lui donne, il s'identifie à la mère. Quand il appelle la mère du nom que le père lui donne, il s'identifie au père. Finalement, il ne prend pas son identité d'être d'une autre génération. C'est une marque de génération et c'est une marque aussi de la filiation. Quand les parents n'appellent jamais leur enfant « mon fils, ma fille », l'enfant qui est appelé par son prénom ne sait pas qu'il y a bien des enfants qui ne savent pas qu'un papa, c'est un père et qu'une maman, c'est la mère. La mère de naissance, ou la mère adoptive, mais enfin, ils ne savent pas. Et je crois que c'est très important que l'enfant sache qu'ils disent père ou mère, pourquoi papa, maman, parce que c'est l'habitude, mais il peut aussi bien, et d'ailleurs, moi, je me reproche à moi-même, dans la société française, tous les enfants disent papa, maman, mais ça serait très joli, qu'ils disent mon père, ma mère. L'habitude, c'est de dire maman, papa, je continue à parler comme ça. Je dis toujours, et j'insiste pour que les parents disent très jeunes aux enfants, ton père, va dire à ton père, va dire à ton papa, si jamais on a prononcé le mot de père, mais il faut l'amener peu à peu, ce mot de père. Et on l'amène d'autant plus facilement que le père, en rentrant, dit « Bonjour un tel, mon fils, bonjour une telle, ma fille ». Alors l'enfant comprend les relations qu'il y a entre les êtres humains dans une famille.
Je vous propose tout de suite de prendre une première lettre qui vous est envoyée par une maman, par des parents d'une petite fille qui a à peine 6 semaines. Ses parents sont enseignants, tous les deux, et ils vous expliquent dans cette lettre, c'est la partie témoignage, qu'ils se sont toujours partagés à égalité toutes les tâches dans la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'aussi bien disons la vaisselle, que le ménage, que les courses à faire, ou encore la correction des copies, puisqu'ils sont professeurs.
Et félicitations.
C'est déjà pas mal, et je crois que c'est très rare quand même.
C'est
pour
très
l'instant,
rare,
en tout cas.
C'est vraiment bien sympathique de voir ça.
Alors, cette maman qui vous écrit dit, bien, notre petit bébé voit donc, par exemple, son père faire du repassage, ou le voit faire la vaisselle. Et je crois que la question précise qu'elle vous pose, si vous voulez, on pourrait peut-être l'élargir, parce que ça correspond à des questions que doivent se poser à peu près tous ceux qui ont un petit garçon ou une petite fille chez eux. Elle vous dit, est-ce que notre petite fille doit être vouée dès maintenant aux poupées et à la dinette, ou un petit garçon aux voitures? Est-ce que cela change quelque chose en profondeur pour l'enfant dans la construction de sa personnalité? Alors la question, c'est ça. C'est est-ce que quand on a une petite fille à la maison, on doit la cantonner dans son rôle de petite fille, lui offrir uniquement des choses féminines?
Mais écoutez, depuis que nous sommes ici, nous parlons de respecter le désir des enfants. Et lorsqu'il n'y a qu'un enfant, forcément, il n'est que d'un seul sexe. Alors, généralement, il s'identifie aux enfants qu'il voit, d'une part, qu'il soit garçon ou fille.
Oui.
Quand un garçon tout seul voit, par exemple, une petite voisine qui est une fille, eh bien, il s'identifie à cette petite voisine, pendant que cette petite voisine s'identifie à lui. Si bien qu'il y a des jeux qui sont autant de poupées pour le garçon, de voitures pour la petite fille. Ben, c'est ça. Mais si un enfant est élevé tout seul, alors il imite son père, si c'est un garçon, sa mère, si c'est une fille, généralement. Maintenant, c'est certain que les garçons ont besoin d'avoir des poupées et d'avoir des dinettes.
Les filles, vous voulez dire?
Les garçons.
Les garçons,
autant que les filles. Mais il se trouve que quand les garçons et les filles sont ensemble, eux-mêmes, ils veulent se distinguer l'un de l'autre et se différencier. Nous n'y pouvons rien. C'est comme ça quand les enfants sont petits. Ils aiment se différencier les uns des autres. Si bien que, généralement, les garçons sont plus épris de jeux moteurs et les filles plus de jeux conservateurs. Ça fait partie du génie particulier du sexe en tant qu'il est physiologique. Mais à partir de l'âge de 3-4 ans, les enfants aiment jouer avec ceux avec qui ils aiment jouer. C'est-à-dire que s'il y a un enfant dominant, qu'il soit fille ou garçon, qui aime des jeux plus de filles, ben le garçon y jouera parce qu'il veut être bien avec la fille. Il y jouera différemment. C'est ça qui est très intéressant. C'est même si les garçons jouent avec des poupées, ils y jouent autrement que les filles.
Oui, mais Françoise Dolto, il y a eu il n'y a pas longtemps une année de la femme en France.
Oui.
Il y a aussi beaucoup de mouvements féministes qui disent, par exemple, que donner des poupées à une petite fille, la faire jouer à la dinette, peindre sa chambre en rose parce que c'est une petite fille, c'est déjà la préparer à la cantonner, disons, dans un rôle purement féminin. Alors,
oui.
La question précise, est-ce que le fait, par exemple, soit d'enfermer cette petite fille dans son rôle féminin dès le début, soit au contraire de ne rien lui donner de typiquement féminin, peut influencer sa personnalité future?
Je ne crois pas, parce que les enfants qui ne s'intéressent pas à un jeu le laissent tomber.
Mmh.
Et généralement, ils choisissent n'importe quoi pour jouer et pas du tout ce qu'on leur donne quand ça ne leur plaît pas. Mais, par exemple, dans cette famille où le père et la mère font tout ce qui est besogne domestique, la fille le fera et Moi, je trouve que c'est indispensable qu'un garçon, autant qu'une fille, sache se débrouiller tout seul pour tout ce qui est nécessaire pour le corps, tout ce qui est nécessaire dans la maison aussi, pourquoi pas. Mais il y a souvent la division du travail quand on est plusieurs et on fait ce qu'on fait plus adroitement, chacun le fait. C'est ça. Hein. Mais moi, je connais une fillette qui a été élevée aux colonies et c'était toujours des hommes qui faisaient tout le travail domestique. Oui. Et quand ils sont revenus en France, elle était outrée de voir sa mère faire le travail domestique en disant « c'est un travail d'homme ». Parce qu'elle avait toujours vu le boy le faire. Alors, vous savez, tout ceci, bien sûr, l'enfant est influencé par tout ce qui se passe autour, et puis peu à peu, ben, il se développe et il fait ce qui lui plaît. Et chacun dans la vie arrive à faire ce qui lui plaît. Moi, vous savez, nous l'avons déjà dit, par exemple, pour les chambres d'enfants, je suis tout à fait contre les chambres dites d'enfants. Je trouve que... On les cantonne à ce moment-là dans un puérilisme.
Oui, on avait parlé aussi du mobilier.
Mais oui, du mobilier. Et puis de peindre une chambre d'une certaine manière, alors que l'enfant n'a pas encore d'opinion. Bien sûr, quand la petite fille ou le petit garçon ont 5 ou 6 ans et qu'il faut changer le papier de mur, on lui demande de le choisir. Il le choisit à sa façon. Je trouve que c'est ça qui est important, c'est de respecter chez l'enfant ce qu'il demande, ce qu'il désire. Et puis il est comme il est.
Je vais reprendre quand même, rester un petit peu sur cette lettre, parce que cette éditrice a l'impression, c'est ce qu'elle écrit, en vous écoutant tous les jours, ou le plus souvent possible, que vous privilégiez très souvent le rôle de la mère vis-à-vis des enfants. Alors là, justement, oui. C'est un exemple type, puisque le père semble vraiment partager avec la mère toutes les tâches.
Je veux dire que ça dépend des lettres. Ça dépend des lettres que nous recevons. Et très souvent, ce sont des lettres de mères qui sont au contact des enfants, les pères étant très souvent pris dans un travail qui les sépare beaucoup plus des enfants que les mères. C'est vrai. Mais au contraire, je suis ravie.
Mais quelle serait alors pour vous l'attitude du père idéal alors, dans une famille?
Il n'y a pas de père idéal. Il y a tel père et telle mère qui ont désiré avoir un enfant. Et cet enfant, puisqu'il est né et qu'il a survécu au jour le jour, c'est qu'il se plaît dans ce milieu-là.
Le soleil, Sacramento, goudron fondu, l'après-midi, la voiture brûlante, le capot, sur le garçon, une fille s'appuie, alors vouloir être à leur place, alors sentir mon cœur qui bat. Le motel Minnesota, et sur les fleurs du couvre-lit, dans 3 minutes, il entendra, c'est pas approchant. Dans la nuit, juste vouloir être à leur place, juste sentir mon cœur qui bat. La chamade, la chamade, la chamade, le drive-in. Elle vient d'attraper la portière. À 23h, l'air est si chaud. Alors s'embrasser à l'arrière. Ce soir, vouloir être à leur place. Ce soir, sentir mon cœur qui bat. La peur des adieux, pourtant vouloir être à leur place, pourtant sentir mon cœur qui bat. La chamade. La chamade.
La chamade, et c'est le cœur de Vincent Delerme qui chante. On retrouve tout de suite Françoise Dolto avec Jacques Pradel dans l'émission Lorsque l'enfant paraît. Vous écoutez le NRV, la suite, France Inter Plus.
Françoise Dolto, bonjour.
Bonjour Jacques Pradel.
Faut signaler à ceux qui vous écoutent pour la première semaine à cette heure-ci que le mercredi, en général, vous faites un point d'honneur à répondre aux jeunes, parce que c'est vrai que le mercredi, ils ont plus de liberté que les autres jours pour vous écouter. Alors on va commencer justement par la lettre d'une jeune fille de 17 ans qui vous écoute très souvent, qui prend même des notes, dit-elle, sur certains sujets. Parfois. Alors voilà, elle a 17 ans, elle est bien dans sa peau, c'est pas vraiment un problème, dit-elle, que je vous expose, mais plutôt une sorte d'obstacle au développement de mon tempérament. Dans son entourage familial, avec ses amis très proches, elle se sent tout à fait à l'aise, elle parle librement, franchement, elle fait des plaisanteries, elle est dynamique, elle dit « je ressens en moi une énergie qui me brûle, que je voudrais dépenser, j'ai envie d'éclater, mais voilà ». Devant certains de mes camarades, ou certaines de mes camarades, devant des étrangers, je suis comme paralysé, mal à l'aise, gêné et surtout complexé. C'est encore une question de timidité. On a vu ces derniers mois le nombre de lettres de jeunes qui parlent de timidité est extrêmement important. Oui. Alors voilà, que faire? Est-ce que je dois avoir une activité quelconque? Qu'est-ce que vous me conseillez? Des groupements de jeunes? Il faut que je vous avoue que je ne sors pas beaucoup de chez moi et je ne sors pas beaucoup de ma coquille. Est-ce que c'est à cause de ça que j'ai ces réactions-là? J'ai envie de voler, d'ailleurs, dit-elle, de mes propres ailes, que faire? Elle demande des tas de choses, même les photos des animateurs de France Inter. Il faut quand même qu'on lui dise tout de suite qu'elle a oublié, quand même. Elle est timide, mais elle oublie aussi, elle a oublié de mettre son adresse. Alors, ça sera pour la prochaine fois, mademoiselle.
Oui, eh bien, nous voyons, chez tous ces jeunes qui sont timides, qu'ils arrivent, comme elle, à 17 ans, en étant fort à l'aise dans le milieu familial, et puis l'école obligatoire, bien sûr, ils arrivent avec leur classe à tenir le coup parce que on rencontre les gens, mais qu'ils n'ont jamais pris en main leur vie sociale extrascolaire. C'est-à-dire que, en effet, dès l'âge de 12-13 ans, les jeunes devraient avoir une activité extrascolaire qui les intéresse, même si ça ne dure pas et que 2 ans après ils changent. Une année c'est le basket, une autre année c'est la guitare, une autre année c'est le chant, une chorale, n'importe quoi comme activité de jeunes qui est de moins jeunes, parce que dans ces groupements il y a des gens d'âge différents et on parle d'autre chose que de la scolarité, et surtout on ne se rencontre pas obligatoirement. Et en effet, elle a tout à fait raison, il faut qu'elle fasse quelque chose. D'autre part, elle ne nous dit pas si elle est encore au lycée, si elle est en apprentissage, elle ne dit rien de ce qui la motive à faire quelque chose pour l'avenir. Elle est prête d'éclater, mais généralement quand on sait ce qu'on va faire plus tard, on canalise toute son énergie vers cela, et à l'occasion du métier qu'on va faire, on fréquente des gens qui s'intéressent aussi à ce but que l'on se propose. Mais c'est tout à fait nécessaire qu'elle aille dans des groupements, elle le dit d'ailleurs, et si elle fait ce qu'elle a décidé de faire, c'est-à-dire de se sortir de sa timidité, eh bien, elle y arrivera. Combien avons-nous eu déjà de lettres de jeunes qui ont suivi ce conseil et qui disent que leur timidité s'amenuise et disparaît peu à peu et s'estompe, et qu'on ne parle pas tout de suite de complexe de tout, c'est parce qu'elle n'a pas l'expérience et qu'il faut qu'elle trouve un moyen de l'avoir et qu'elle s'y oblige à sortir quand elle aura décidé, qu'elle ne dise pas « oh non, je suis fatiguée aujourd'hui, n'importe quoi », qu'elle ne triche pas avec elle-même. Elle a décidé de faire une sortie, c'est arrangé, elle s'est inscrite à un mouvement ou à un sport, il faut qu'elle le fasse et qu'elle sente que chacun est nécessaire au groupe et qu'elle est tout aussi nécessaire que les autres qui lui font peur, parce que c'est ça vivre, c'est vivre en société et quitter sa famille pour aller vers la société et honorer ses parents en faisant quelque chose plutôt que de rester à la maison dans le nid, cela à partir de 12, 13 ans, 14 ans plus tard.
C'était Françoise Dolto à l'antenne, 3e épisode du NRV France Inter Plus de Lorsque l'enfant paraît. Demain, les séances se poursuivent et la mort est au programme. Réalisation signée Stéphane Combe, préparation Virginie Rosic et Véronique Jolivet de Lina. À la technique ce soir, Clément Vuillet. Tout est dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le bonsoir. Alors à demain.